Vous écoutez France Culture.
Terre, le magazine de l'environnement, une émission ce matin dédiée à tous les citoyens dégagés des obligations politiques. Fin 2011, un ami me disait que parler du nucléaire en France, c'est comme vouloir parler de démocratie sous Brejnev. Tant il est vrai que la classe politique tout entière apparaît bunkérisée, bardée de certitudes indiscutables. Mais pourtant, l'édifice se fissure. Tout début janvier, c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui a présenté un rapport sur les investissements massifs, fermés les guillemets, à faire pour renforcer les centrales nucléaires et les rendre plus sûres en France. Et ces jours-ci encore, la Cour des comptes est en train de plancher sur le vrai coût du nucléaire. Tout ceci alors même que vient de paraître au Seuil un livre que nous devons à nos deux invités de ce matin. Alors, je rappelle, Benjamin Dessus, vous êtes ingénieur des télécommunications et économiste. Vous avez travaillé à EDF, à l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, au CNRS, et vous présidez actuellement Global Chance. Et puis, Bernard Laponche, vous êtes polytechnicien, docteur en sciences. Vous avez travaillé au CEA, commissariat à l'énergie atomique. Vous avez été responsable syndical à la CFDT dans les années 60 et 70. Puis vous avez été directeur de l'AFME, l'Agence française de maîtrise de l'énergie, et conseiller technique de Dominique Voynet. Vous êtes actuellement consultant international dans le domaine de l'énergie. Donc vous êtes venu vraiment assez souvent, je me souviens qu'en 2003, vous étiez venu ici même en compagnie de Nicole Fontaine, qui était à l'époque ministre de l'énergie, et que vous vous étiez plaint amèrement de l'impossibilité d'avoir des débats sur cette question du nucléaire. Et je me demandais si la parution, la publication de cet ouvrage, En finir avec le nucléaire, pourquoi et comment, aux éditions du Seuil, était le signe d'un tournant annonciateur qu'enfin il est possible de parler du nucléaire en France et d'en parler non pas simplement sur le mode de la communication publicitaire, mais d'en débattre véritablement avec des arguments, des échanges, de la controverse éventuellement, mais en tout cas en se penchant sur les faits. Benjamin Dessus ?
C'est vrai que la catastrophe de Fukushima a un peu changé la donne, dans la mesure où l'inquiétude des Français, la prise de conscience du fait qu'on pouvait avoir un accident dans un pays comme la France ou en Europe remet en cause les certitudes acquises et donc ouvre un peu les gens au débat. Donc ce débat commence à exister, il y a une espèce de fenêtre qui est en train de se refermer d'ailleurs assez bizarrement parce que tout le monde parle maintenant d'économie du nucléaire, d'emploi du nucléaire et tout le monde a oublié complètement qu'il y a eu un accident nucléaire et que c'est ça le vrai problème, les dangers du nucléaire. Donc il y a une espèce de fenêtre d'opportunité pour discuter. Reste que c'est très difficile parce que les arguments aujourd'hui échangés sont des arguments qui sont très généralement hors de la rationalité. Derrière les chiffres, il y a des inventions manifestes et par conséquent c'est très difficile d'avoir un minimum de rationalité dans ce débat. Mais enfin, l'idée de ce livre était justement de rationaliser un peu ce débat et d'apporter des chiffres, des arguments au débat démocratique.
Et puis il faut souligner que ce sont les éditions du Seuil qui sont venues vous proposer cet ouvrage, ce qui est une nouveauté quand on pense que pour l'instant vous avez eu beaucoup plus de facilité à publier dans des cahiers, les cahiers de Global Chance, que vous financez vous-même, il faut le dire tout de même. Là cette fois c'est un éditeur. Bernard Laponche.
Il faut quand même rappeler que le livre que la CFDT avait écrit en 1975, qui s'appelait l'électronucléaire en France, avait été édité déjà par le Seuil.
Ah, belle constance.
Et par la même, et avec le même directeur de collection,
Jean-Marc Lévy-Leblond. Belle constance, mais enfin tout de même,
Il y a un écart
entre Benjamin Dessus parlait de fenêtres, et là ce sont vraiment des...
Non, mais il y a une réédition en 81 quand même. Non. Rendons à César ce qui est à César et au seuil ce qui est au seuil. Ce qui est frappant, moi, je pense, depuis Fukushima, c'est du côté des médias qui se sont enfin aperçus que s'adresser uniquement aux promoteurs du nucléaire pour avoir des renseignements sur le nucléaire les amenait à écrire des choses qui manifestement étaient fausses. Et donc, on est beaucoup plus interrogé, y compris par des journalistes qui peuvent avoir des opinions différentes, simplement pour vérifier certains chiffres, pour qu'on leur explique qu'est-ce que c'est que le MOX, quels sont les problèmes de l'EPR, et ça, certaines reconnaissances, si vous voulez, d'une compétence qu'on avait dans un cercle restreint. Tandis que c'est quand même assez général.
Alors, on va revenir à l'ouvrage lui-même. En finir avec le nucléaire, pourquoi et comment, le titre annonce d'emblée la couleur. Il ne s'agit pas de s'interroger sur faut-il ou non sortir du nucléaire, mais véritablement de voir comment et pourquoi. Et d'entrée de jeu, vous réinscrivez cette question du nucléaire dans un contexte international, mondial, et vous montrez bien que cette question n'est pas franco-française, mais que nous sommes largement devancés par énormément de pays qui, eux, ne se posent plus la question, en effet. Alors, Bernard Laponche.
Bon, sur le plan international, bon, c'est vrai que de toute façon, tout le monde s'interroge sur la fin du système, indépendamment du nucléaire, sur la fin du système énergétique actuel qui est basé sur la consommation des énergies, on dit les énergies de stock, c'est-à-dire celles qui sont limitées dans la croûte terrestre et qui sont quand même le gaz, le charbon, le pétrole et l'uranium. Et donc, ces ressources sont limitées, leur utilisation pose d'énormes problèmes côté émissions de gaz à effet de serre, ou côté accidents, ou côté déchets, ou côté pollution. Et donc, on va vers la fin de ce système, et donc vers des systèmes qui sont basés sur des moindres consommations d'énergie au même service rendu, sur les énergies renouvelables. Alors ça, c'est un mouvement de fond au niveau mondial. Et pour ce qui concerne plus précisément le nucléaire, il faut voir que le nucléaire, c'est-à-dire l'uranium au niveau mondial, contribue pour 2,4% à la consommation d'énergie finale mondiale.
Donc le monde pourrait, pratiquement rien.
Le monde pourrait s'en passer. Bon. Et que les grands pays nucléaires, en moyenne, la part du nucléaire dans leur production d'électricité, c'est entre 20 et 30% maximum. Alors la France est un cas d'exception avec 75%, et c'est pour ça que la question nucléaire est très importante en France, et en plus exagérée, puisqu'en France, depuis presque un demi-siècle, quand on parle d'énergie, on parle d'électricité, quand on parle d'électricité, on parle de nucléaire. Et donc, beaucoup de pays se posent ces questions, certains ont décidé que ça suffisait comme ça, que le nucléaire était trop dangereux, que ça ne valait pas la peine de produire de l'eau chaude et de l'électricité avec cette technique dont on découvre chaque fois que les accidents, on les avait pas prévus, mais la fois d'après, on les prévoira, etc. Et donc l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, la Belgique, soit ont déclaré qu'elles n'en feraient pas, soit ont déclaré qu'elles en sortaient. Enfin, il y a quand même un mouvement assez général de remise en cause, même si tous les pays n'ont pas été aussi fermes, je puis dire, dans leurs décisions que l'Allemagne.
Non, puisque la Chine, par exemple, continue à envisager.
La Chine se pose beaucoup
très
de questions.
Sérieusement,
elle continue à envisager, mais elle ne fera certainement pas le programme qu'elle avait prévu avant Fukushima.
Qui était un programme de 200 réacteurs nucléaires?
Oui, alors ça varie. C'était plutôt 40 à 2020, c'était peut-être 200 en 2030, 2050. Mais on a connu en France des prévisions de 400 sur générateur 40 ans après, et on en avait zéro. Donc, c'est pas non plus. Moi, je pense que les Chinois réfléchissent beaucoup parce que, d'abord, ils sont pragmatiques, ils sont intelligents, ils se rendent compte que c'est pas si bon marché que ça, et qu'en tout cas, ils auraient aussi des risques d'accidents, des problèmes de déchets, etc. Et l'Inde s'interroge aussi. Ils ont un programme nucléaire, mais il y a beaucoup. D'abord, il y a des protestations internes, et puis il y a aussi des interrogations, et sur les coûts, et tout ce que ça implique, et qui a été quand même révélé par l'accident de Fukushima.
Il me semble que vous citez même un haut personnage de la filière énergétique qui lui-même s'interroge sur l'opportunité de poursuivre avec le nucléaire.
Ah, ça, ce sont des industriels américains qui se posent des questions, pas tellement à cause
du danger
du nucléaire.
Le PDG de Energy Group, l'un des principaux opérateurs d'électricité américain.
En fait, il y a une série de gens, d'industriels, qui n'y croient plus pour des raisons purement financières. Ce qui est un autre aspect de la question. le renchérissement des coûts des nouveaux réacteurs nucléaires, la perspective de l'augmentation de l'uranium, les difficultés d'acceptabilité sociale partout où on essaye de faire du nucléaire, font que les très longs temps de retour imaginables pour amortir ces centrales, puisque maintenant, pour justifier, par exemple, un EPR, on veut le faire marcher 60 ans, et s'engager pour 60 ans pour une entreprise est quelque chose de considérable, alors que les marchés énergétiques fluctuent très vite. Donc s'engager pour se dire « je vais être rentable à condition de faire marcher mon truc pendant 60 ans » devient très 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 difficile pour une entreprise quand ce n'est pas directement l'État qui est derrière. Donc les entreprises privées, sans forte incitation de l'État et sans financement de l'État, n'ont plus du tout envie d'aller dans le nucléaire.
Mais alors, dans ce tableau général, la France fait figure de grande isolée. Alors, est-ce que, contrairement aux Chinois, elle ne serait ni pragmatique ni intelligente? Il y a un certain nombre d'arguments. Un des arguments qu'on entend régulièrement, c'est, sur le ton légèrement ironique, l'Allemagne a beau jeu de vouloir sortir du nucléaire, elle va nous acheter de l'électricité, par exemple. Benjamin Monsieur.
La tendance française du cocorico et tous les autres sont pas très malins, est très évidente, en particulier dans le cas de l'énergie nucléaire ou du système énergétique.
Ça ne date pas d'hier.
Et ça ne date pas d'hier. Donc on est renforcé par l'isolement. On a l'impression que le ministère de l'Industrie et le gouvernement est renforcé dans sa conviction par son isolement en disant « Voyez-vous, j'ai forcément raison puisque je suis tout seul. Et je suis seul à avoir raison, donc je suis le meilleur. » Quand on parle, par exemple, de cette histoire d'exportation et d'importation d'électricité, il faut savoir que jusqu'à maintenant, dans les échanges franco-allemands d'électricité, c'est l'Allemagne qui exporte plus vers la France que la France n'exporte en Allemagne. Alors, on nous dit que ça va changer, ça n'a pas encore changé. Bon. D'autre part, nous exportons de l'électricité très bon marché de nuit, en période d'été, parce qu'on ne sait pas quoi en faire, c'est l'électricité nucléaire, parce qu'on ne sait pas arrêter nos réacteurs, on la vend quelques centimes, alors que les Allemands nous vendent de l'électricité en hiver pour alimenter notre chauffage électrique qu'on ne sait pas alimenter autrement, avec de l'électricité charbon, très chère, et qui fait beaucoup d'effet de serre. Donc il faut remettre ces arguments en place les uns vis-à-vis des autres, et l'argument selon lequel, comme les Allemands vont arrêter leur centrale nucléaire, ils vont nous emporter plein d'électricité, n'est pas encore du tout vérifié.
Alors, cette curiosité locale s'explique, et c'est peut-être important de le préciser, par le système nucléaire lui-même qui empêche une certaine souplesse dans l'utilisation.
Cette cécité tient effectivement au fait qu'on a investi dans des centrales dont la souplesse d'utilisation est très faible, et surtout, même si on sait la rendre un peu plus souple, dont les investissements sont tels qu'il faut absolument, quand on a fabriqué une centrale nucléaire qui coûte très cher à l'achat, on sait que le EPR prochain va coûter 6 milliards, pour l'amortir, il faut s'en servir tout le temps. Il ne faut pas l'arrêter. Donc, on est coincé, on ne peut plus s'amuser à moduler ce genre de choses.
On va continuer dans les arguments qui vous sont régulièrement opposés, non pas à vous, mais qui sont opposés d'une manière générale à l'hypothèse d'une sortie du nucléaire, l'indépendance énergétique. La France est tout de même indépendante à 51%.
Ouais.
Bernard Laponche,
alors c'est un
ne
beau...
soupirez pas.
C'est un bobard. Ben, c'est très facile, vous regardez la consommation d'énergie primaire, c'est-à-dire les sources initiales, naturelles, qui fournissent notre énergie. On importe le charbon, on importe le pétrole, on importe le gaz naturel, on importe l'uranium. Donc 90% de notre consommation d'énergie primaire est importée. Il reste 10%, ce qui est le bois et l'hydraulique, donc les énergies renouvelables locales.
Alors donc, comment est-ce qu'on arrive à ce chiffre de 51% de...
Eh bien, parce qu'on calcule, c'est là où est le bobard, c'est qu'on mesure l'énergie primaire fournie par l'uranium, et ça c'est correct, par la chaleur produite dans les réacteurs nucléaires. Et cette chaleur, on ne nomme pas l'uranium. On nomme même pas...
C'est-à-dire on oublie, on nomme...
On oublie que ça vient de l'uranium, d'une part, et en plus on appelle cette chaleur qui représente effectivement à peu près 40% de la consommation totale d'énergie primaire, on appelle cette chaleur énergie primaire, électricité primaire. Donc, un, l'uranium disparaît, et donc, comme il disparaît, il n'est pas importé, donc ce n'est pas une importation. Cette chaleur est produite en France, donc l'énergie primaire est en France, et en plus, on l'appelle électricité primaire pour encore mettre un peu plus de brouillard dans la compréhension des choses. Et donc, cette électricité, cette énergie dite électricité primaire représente effectivement à peu près 40%. Mais d'une part, en amont, elle vient de l'uranium qui est totalement importé.
Il faut le rappeler, du Canada, du Kazakhstan et du Niger.
Ben surtout le Niger, l'Australie, le Canada et bientôt probablement le Kazakhstan. Mais bon, le charbon, quand le pétrole... Puis on dit, oui, mais vous savez, l'uranium n'est pas cher. Mais quand le pétrole était à 2 dollars le baril...
On disait aussi que vous savez, le pétrole n'est pas cher.
On disait que le pétrole n'est pas cher, c'est pas... Mais jamais on a dit que le pétrole était national. Sous prétexte qu'il n'était pas cher. Donc l'uranium est importé, voilà. Donc on est dépendant. Donc l'indépendance énergétique, ou alors il faut la définir différemment. Considérer que l'énergie nucléaire produite par de l'uranium est une énergie, entre guillemets, nationale, c'est faux. Point.
En revanche, Bernard Laponche, Benjamin Dessus, importer du charbon, importer du pétrole, ça serait absolument terrible pour nos émissions de gaz à effet de serre.
Oui, c'est vrai, c'est d'ailleurs la comparaison qui est donnée régulièrement par l'industrie nucléaire ou le gouvernement, en disant, si on ne faisait pas de nucléaire, on émettrait 40% de gaz à effet de serre supplémentaire. Cette comparaison est faite de la façon suivante. On décide, une bonne fois pour toutes, que si on n'avait pas de nucléaire, on aurait mis du charbon à la place dans les centrales, ce que personne ne fait vraiment plus. Même les Allemands font essentiellement des centrales à gaz alors qu'ils disposent de charbon beaucoup chez eux. Pourquoi ? Parce que les centrales à gaz naturelles sont beaucoup moins polluantes du point de vue du CO2, à peu près un peu plus de deux fois moins polluantes que ne le sont les centrales à charbon. Donc, si on voulait faire une comparaison honnête, il faudrait d'une part regarder ce que le nucléaire émet comme gaz à effet de serre, qui n'est pas tout à fait nul, parce que quand on construit une centrale, on fait du béton et un certain nombre de choses qui fabriquent du CO2. Et d'autre part, le cycle lui-même de raffinage et l'aval du cycle nucléaire produit aussi des gaz à effet de serre. Quand on fait ce bilan et qu'on fait une comparaison avec les centrales à gaz, on s'aperçoit que sur le CO2 tout seul, le programme nucléaire évite à peu près une petite vingtaine de pourcents et non pas 40% des gaz à effet de serre.
Donc la moitié de ce qui est annoncé.
Et puis si on le compare par rapport à l'ensemble des gaz à effet de serre, c'est plutôt 15%. Donc voilà, c'est pas nul, mais c'est 15 ou 20%, c'est pas 40%.
On va suivre tout de même le plan de votre livre, parce que je trouve qu'il est remarquable. Donc là, on a à peu près épuisé le... Ah non, regardez, on peut encore parler, pour le premier chapitre, des coûts du nucléaire et du prestige et puis de l'intérêt économique et commercial qu'il peut y avoir pour la France à développer un programme nucléaire. Le coût du nucléaire, vous l'avez dit vous-même, c'est vrai, le combustible est très peu cher et l'électricité est très peu chère. Benjamin Dessus.
L'électricité nucléaire d'aujourd'hui apparaît comme très peu chère, pour plusieurs raisons, parce que nous avons un parc qui a été dessiné pour durer une trentaine d'années, il en a actuellement 27, donc il est amorti, et comme vous savez que le nucléaire, le plus gros morceau c'est l'investissement, quand cet investissement est amorti, le nucléaire coûte pas très cher. Il n'est pas très cher aussi parce que on prend très mal en compte les questions du démantèlement et les questions du stockage, du retraitement des déchets et du stockage. Sous deux aspects. D'une part, régulièrement, ces dépenses sont complètement sous-estimées. À preuve, chaque fois qu'on les reprend, que ce soit la Cour des comptes, l'ANDRA, etc., on multiplie par deux les coûts. Chaque fois qu'on s'y intéresse. Par exemple, l'ANDRA avait pensé que le stockage de déchets nucléaires, ce serait de l'ordre de 15 milliards d'euros pour faire un trou à Bure ou ailleurs. Aujourd'hui, on en est à 35. Par exemple, on pensait que le démantèlement de Brennenis coûterait 20 millions d'euros. On était à 20 millions au départ, on était à 480 et il n'est toujours pas fait.
Et c'est la première centrale.
C'est la première centrale. Alors, c'est pas forcé que les PWR, qui sont les 58 centrales qu'on va démanteler, aient les mêmes problèmes. Mais vous voyez qu'on a une incertitude sur ces coûts tout à fait importants. Les coûts qui ont été pris en compte pour calculer le coût du nucléaire actuel sont plutôt dans la gamme basse. Et puis d'autre part, quand on a calculé ces coûts, on s'est dit, ces coûts vont intervenir dans 40, 50 ans ou 60 ans. Et comme on a une préférence forte pour le présent par rapport à l'avenir, on a introduit des taux d'actualisation, qui sont une façon de définir l'intérêt qu'on a pour le présent par rapport à l'avenir, relativement élevés, qui font qu'un coût dans 50 ans ou dans 30 ans de 1000 euros apparaît d'aujourd'hui comme étant de quelques euros. Dans ces conditions, ça coûte pas très cher dans le truc. Mais on va se trouver confronté au problème suivant. Ces centrales qui ont 30 ans aujourd'hui, ou dont certaines ont déjà plus de 30 ans, il va falloir vraiment les démanteler. Et là, on se trouvera vraiment devant le problème du coût, on ne peut pas le reporter de 50 ans. Donc en fait, le coût du nucléaire qu'on nous donne comme bon marché est un coût d'un nucléaire qui n'existe plus. Le nouveau nucléaire dont on va avoir besoin, que ce soit des EPR, des centrales rénovées, etc., qu'il faudra démanteler, etc., etc., dont il faudra stocker les déchets, va coûter probablement entre 2 et 2,5 fois plus cher que le coût d'aujourd'hui.
Pour l'heure, on envisage simplement de prolonger la durée de vie des centrales. Est-ce que c'est une solution intéressante?
Il y a un certain nombre de gens, dont le ministre de l'Industrie, qui nous explique que plus une centrale est vieille, plus elle est sûre, parce qu'on a vu à peu près tous ses défauts. Mais on a la même chose avec les vieillards dont je suis. On est de plus en plus sûr jusqu'au moment où on crève. Donc ça n'est pas très sérieux. Bon. En fait, pour parler sérieusement, si on veut prolonger les centrales d'une dizaine d'années, il y a des opérations de toute façon de jouvence à faire, mais qui étaient prévues et qui vont coûter à peu près 200 ou 300 millions par réacteur, ce qui n'est pas rien. Et si on veut les mettre dans un état de sûreté compatible avec l'expérience post-Fukushima, il est probable qu'ils vont avoir en rajouter encore 500 ou 600 millions d'euros pour tenir 10 ans de plus. Pour tenir 20 ans de plus, très probablement pas. Donc, on a une incertitude sur ces coûts. Personne ne veut les donner. Les post-Fukushima, personne ne se hasarde à dire combien ça va coûter. Bon. Mais on sait que ça va être cher. Donc ça va changer assez fondamentalement les coûts d'un nucléaire dans les quelques années qui viennent.
Et de fait,
quelle que soit la solution adoptée.
De fait, j'ai relevé dans votre livre qu'EDF demande déjà une augmentation progressive de...
Mais c'était avant Fukushima.
Avant Fukushima, oui.
Gadonex, le président à l'époque de EDF, avait demandé 40% d'augmentation en 5 ans de l'électricité française. Et pas de l'électricité au niveau de la production, au niveau de la distribution. Et ça, c'est énorme parce que vous voyez, dans le coût du nucléaire, le coût de l'électricité que vous achetez aujourd'hui en tant que particulier, qui coûte à peu près 13 centimes le kilowattheure, il n'y a que 4 ou 5 centimes de production. Donc vous voyez, quand vous augmentez de 40% l'ensemble du coût, vous pouvez vous permettre de multiplier par 2, voire par 2,5, le coût de la production.
Donc ça, c'est à peu près garanti.
Ce qui est à peu près garanti, c'est que de toute façon, le coût de l'électricité en France va augmenter fortement.
Alors, pour l'instant, on a parlé de l'électricité. Tout simplement, on a dit qu'elle était effectivement d'origine nucléaire, que c'était l'uranium. On n'a pas encore véritablement abordé la question des risques inhérents à ce système lui-même. C'est l'objet du deuxième chapitre de votre livre. Pourquoi sortir du nucléaire? Bernard Laponche, peut-être?
Oui, moi j'ai longtemps pensé, puisque j'avais travaillé dans ce secteur, qu'en fait, on ne prenait pas assez de précautions, qu'il fallait améliorer la sûreté, et que donc c'était plus des critiques sur la façon de faire que sur la technique de base elle-même. Et puis au fur et à mesure, en fait, je me suis aperçu, et puis d'autres aussi, je veux dire, mais c'était dès le début qu'il fallait se rendre compte qu'à partir du moment où on utilise la technique de fission, c'est-à-dire que cette chaleur qu'on produit dans les réacteurs, et qui est donc le côté positif de l'affaire, bon, on produit quand même de la chaleur, bon, provenait de la fission, que cette fission cassait les noyaux en des éléments instables qui étaient extrêmement radioactifs. Et que donc, même si un réacteur nucléaire marche bien convenablement, qu'il n'a pas de pépins, à la sortie, c'est-à-dire quand on sort ce combustible qui est usé, quand on le sort du réacteur, il est transformé, pour dire, une espèce de machine infernale, c'est-à-dire un matériau qui contient des produits radioactifs extrêmement dangereux, des produits de fission et du plutonium en particulier, extrêmement dangereux pendant des siècles, voire pour certains des millénaires. Et qu'on ne sait pas quoi en faire. Et qu'il y a donc déjà une raison de dire que cette technique, ben, ça va pas, quoi, puisque une centrale à charbon, elle produit des cendres inertes, et cette technique-là, au fur et à mesure qu'elle fonctionne, elle produit des produits extrêmement dangereux. Les gens étaient conscients de ça à l'époque, mais ils disaient, on trouvera une solution. Puis 50 ans après, on n'a toujours pas trouvé de solution. Donc il y a un moment, il faut se dire, bon, ben, ça va, quoi. Et la deuxième chose, c'est assez semblable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un accident qui, pour ce type de réacteur, le plus probable, c'est celui de la perte de refroidissement, c'est-à-dire qu'en fait, le cœur, les combustibles sont détruits, et donc il se passe des réactions, par exemple, production d'hydrogène et explosion de l'hydrogène, fusion du cœur, donc percement de la cuve, etc. Et qu'il y a des tas de raisons possibles pour arrêter justement ce refroidissement, c'est-à-dire ne pas être capable de refroidir, et il faut refroidir parce que justement le cœur contient ces matières radioactives qui sont très chaudes, très radioactives. Et donc, moi je suis persuadé que c'est la technique même qu'il faut remettre en cause en disant, écoutez, très bien, cette technique permet de produire de la chaleur, mais elle produit des déchets radioactifs et elle produit des accidents. Alors à l'époque, on avait parfaitement décrit ces accidents dans le livre dont j'ai parlé au début, des années 75, mais on n'était pas sûr qu'ils se produiraient, et donc on pouvait nous accuser en disant, mais vous voyez, bien sûr ces accidents sont possibles, mais leur probabilité est tellement faible qu'il ne faut pas en tenir compte. Eh bien, Three Mile Island, Tchernobyl et Fukushima ont prouvé que ces accidents étaient possibles. Et maintenant, les autorités de sûreté nucléaire, qui considéraient avant que la probabilité était du genre 1 sur 1 million, des choses absolument minuscules, eh bien que l'accident grave ou majeur est possible en France. Et donc ça change complètement ce qui s'est passé, montre que les réacteurs français étant du même type, grosso modo, ces réacteurs à eau que les réacteurs de Three Mile Island, exactement du même type, et du même type à eau que ceux de Fukushima, l'accident est possible. Mais à partir du moment où il est possible, il faudrait garantir qu'il ne se passe pas. Puisque quand il se passe, c'est une catastrophe, et ça veut dire une région française, au minimum, qui est contaminée. Et des victimes, et des gens déplacés, etc. Eh bien, moi, je pense qu'il faut dire, mais non, on n'accepte pas. Puisqu'il est possible, on ne l'accepte pas, et comme les gens de la sûreté ne peuvent pas nous garantir, loin de là, que ça ne se passera pas, eh bien on arrête. D'où l'idée d'en finir avec le nucléaire.
Benjamin Dessus.
Il y a un rapport de l'Institut de recherche de sécurité nucléaire qui est très éclairant et qui date de 2006, dans lequel son auteur dit « Les réacteurs français n'ont pas été conçus pour résister à un accident grave. À la conception même, il n'y a pas d'accident grave possible. Autrement dit, à l'époque où ça a été décidé, on n'envisageait pas cette possibilité, où la probabilité était tellement faible qu'on n'envisageait pas de concevoir un réacteur pouvant résister à des accidents graves. C'est quand même tout à fait significatif.
D'autant plus que maintenant, les autorités de sûreté disent que le même accident grave est possible.
Eh bien, vous soulignez effectivement dans votre ouvrage qu'aucun des accidents qui ont eu lieu n'avait été en quelque sorte envisagé, prévu, imaginé. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu défiance, ça n'a pas été ce qui avait été plus ou moins prévu. La liste des possibilités d'accidents s'est énormément allongée ces dernières années, entre la possibilité d'un attentat terroriste, un avion qui tomberait, un tsunami doublé d'un coup de vent, enfin c'est effectivement tout ça, sans parler des erreurs humaines qui sont celles qui sont à l'origine de l'accident de Tchernobyl, effectivement la liste est impressionnante.
En fait, quand les gens font les calculs de probabilité, c'est pas les calculs de probabilité que je remets en cause, c'est l'imagination des ingénieurs, du cumul de petits événements qui ont l'air a priori improbables et qui, quand se cumulant, produisent l'accident épouvantable. Et c'est chaque fois ce qui s'est produit, que ce soit à Three Mile Island, que ce soit à Tchernobyl ou que ce soit à Fukushima. Donc, et ça, cette liste est quasiment infinie.
Et on peut peut-être ajouter simplement pour conclure sur ce point que ni les assureurs n'acceptent d'assurer ce type de risque, ni les plans de prévention pour la population ne sont au point. Je parle là, c'est un sujet que vous n'avez pas véritablement abordé, mais qui est très bien décrit dans les dossiers du Canard enchaîné qui sont également consacrés au nucléaire, les dossiers de l'automne dernier, qui raconte qu'effectivement, il n'y a aucun véritable plan d'évacuation de la population ou de soins apportés à la population en cas d'accident. Et vous soulignez qu'en France, il y a environ un réacteur pour 1 million d'habitants.
Oui, puisqu'il y a 58 réacteurs pour 60 millions d'habitants.
Je vais revenir sur cette histoire d'erreur humaine, parce qu'on a l'air de dire, bon, il y a des accidents avec erreur humaine, puis il y a des accidents avec pas d'erreur humaine. Tous les accidents sont basés sur l'erreur humaine, à des degrés divers. L'erreur humaine dans la conception. Il peut y avoir une mauvaise conception, et puis on s'aperçoit que tel réacteur qui était supposé très sûr ne l'est pas. Tchernobyl. Et puis après la construction, voir les trucs, les défauts de construction de l'EPR, dans l'exploitation, etc. Et au premier chef, la responsabilité de ceux qui ont dit, bah, écoutez, c'est très sûr, et donc les gens les ont cru. Puisque
c'est-à-dire qu'erreur humaine, ce n'est pas nécessairement le sous-traitant qui, ben voilà, au bout de course...
Ou même le type de la salle de contrôle qui a un accident.
Non, mais il y a un accident d'abord et inattendu. Avant tout, les ingénieurs qui ont conçu...
C'est l'ensemble. Et le long de cette chaîne, la probabilité, si vous voulez, d'erreur humaine est tellement grande, ou d'agression, parce que vous avez parlé des différentes possibilités physiques, mais la plus simple, c'est l'agression informatique de nos jours. L'agression sur le contrôle commande, c'est-à-dire sur le cerveau des réacteurs. Et donc, moi, je pense que le prochain, ça sera soit la rupture de la cuve, qui est considéré comme pratique, à nouveau comme impossible, soit une agression informatique.
Mais je voudrais revenir un instant sur l'histoire de la prévention, là, enfin des plans d'évacuation. S'il n'y en a pas, c'est pour la même raison. Notre gouvernement et notre industrie n'ont jamais imaginé comme vraisemblable l'évacuation de la région parisienne si Nogent, la centrale de Nogent, avait un accident grave.
La centrale de Nogent, à 90 km de Paris.
C'est pas pensable. Donc on n'a pas de plan.
Alors, vous le disiez vous-même, la réponse du système nucléaire à tout cela, c'est que oui, mais nous apprenons de nos erreurs passées et oui, mais nous améliorons constamment la sécurité, etc. Alors, est-ce que véritablement il y a eu une amélioration sur la sécurité? Et puis, tout à l'heure, vous disiez, Bernard Laponche, que la question des déchets est restée entière. Il y a le retraitement, tout de même.
Sur la question des accidents, donc les premières centrales étaient construites sous licence américaine, c'est exactement comme la centrale de Three Mile Island, donc on en a déjà 34 comme ça, donc on sait très bien qu'elles répondent à certaines exigences de sûreté de l'époque, mais pas de la suite. Par exemple, elles ont une seule enceinte de confinement. Curieusement, après, on a mis deux enceintes. Alors, il faudrait savoir, est-ce qu'il faut deux enceintes ou qu'une? Si on n'a pas besoin de deux, pourquoi on en fait deux? Et si on a besoin de deux, il faut en faire deux sur les précédentes. Donc déjà, bon... Et ensuite, on a soi-disant modernisé en faisant des réacteurs de plus en plus gros. Et puis, le PR, lui, c'est le plus gros, c'est celui qui doit vivre, comme a dit Benjamin, pendant 60 ans. On va utiliser beaucoup plus l'uranium pendant plus longtemps, donc on aura des combustibles irradiés plus radioactifs. On fait des améliorations de sûreté, entre guillemets, mais beaucoup de gens considèrent que ces améliorations rendent le réacteur plus dangereux. Donc, en fait...
Plus dangereux, en fait, parce que plus complexe.
Oui, plus complexe.
En particulier à cause de la complexité, effectivement. Ouais. Il y a un moment où le degré de complexité est tel que l'erreur humaine est plus probable, ouais. La gestion devient de plus en plus difficile, et même l'appréhension par les gens qui contrôlent et qui guident la centrale de l'ensemble des phénomènes devient de plus en plus compliqué.
Et en plus, même si on admettait que les réacteurs français, je ne sais pas trop pour quelle raison, mais enfin, étaient plus sûrs que les autres, je ne pense pas que ce soit juste, il faudrait pratiquement qu'ils soient absolument sûrs, ce qui est totalement impossible. Et donc, on retombe sur ce que je disais avant. Alors, sur la question du retraitement, c'est pareil, on a fait du retraitement, c'est-à-dire, le retraitement, c'est l'extraction du plutonium des combustibles irradiés. Bon, d'abord pour des besoins militaires, puis pour les réacteurs surgénérateurs, maintenant on les met dans les réacteurs actuels, ce qu'on appelle le MOX. Mais ce retraitement sépare en partie l'uranium, le plutonium et le reste, les produits de fission et les transuraniums, et à la fin, vous avez à peu près la même quantité de déchets. Et en particulier les combustibles...
C'est-à-dire qu'ils sont toujours irradiés et peut-être même plutôt plus.
La quantité de plutonium n'est pas tellement diminuée puisqu'il en reste beaucoup dans les combustibles MOX irradiés qu'on ne retraite pas. Et les produits de fission, ils sont là. Et alors on les transforme en verre, etc. Mais pour le moment, on ne sait pas réduire la radioactivité. Et donc ça reste un problème. À mon avis, ça le restera tant qu'il y aura du nucléaire.
Alors là aussi, vous dites qu'il y a une entourloupe sur les chiffres. qui sont avancées.
Il y a une entourloupe sur les chiffres qui est une entourloupe de vocabulaire, en fait, finalement. L'une des façons de résoudre le problème pour l'industrie nucléaire et le gouvernement est de dire, vous voyez, on n'a que 2% de déchets qui sont les déchets qu'on va vraiment mettre dans un trou à Bure ou ailleurs. En disant, le reste est réutilisable, valorisable. Pas tout de suite. Peut-être dans 20 ans, peut-être dans 50 ans, si on a de nouvelles techniques, etc. En attendant, ce n'est pas valorisé. Or, ce qui intéresse une population comme la population française, c'est pas le fait que ce soit des déchets ou pas des déchets, mais est-ce que c'est dangereux ou est-ce que ça ne l'est pas. Or, avoir 70 tonnes de plutonium à la hache, c'est dangereux. C'est vraiment très dangereux. Avoir beaucoup d'uranium appauvri, c'est dangereux. Il y a toute une série de choses qui ne sont pas résolues, qui ne se résolvent pas. On utilise un petit peu de plutonium dans le MOX et il en reste beaucoup dans les combustibles, comme le disait Bernard tout à l'heure. Et donc, on n'a pas sensiblement changé la situation avec le retraitement. On l'a changé de quelques pourcents. Et le vocabulaire consistant à dire que c'est pas un déchet parce que c'est peut-être valorisable est un mauvais discours. C'est d'autant plus mauvais que quand on prend les déchets actuels qu'on met sous verre, pendant ce temps-là, toutes les équipes du CEA travaillent pour savoir si ces déchets ne pourraient pas être valorisables. Et ce ne serait plus des déchets. Donc vous voyez que le vocabulaire lui-même ne veut pas dire grand-chose.
Reste à parler de la question de la prolifération, qui est elle aussi inhérente au système nucléaire.
En tout cas, aux techniques qui ont été utilisées depuis le début, puisque le nucléaire civil actuel, ce qui est essentiellement les réacteurs à eau, hein, ceux de la France, du Japon, des États-Unis, etc., est basé sur la technique de l'enrichissement d'uranium. Et si cette technique, en particulier l'ultracentrifugation qui est utilisée en Iran, cette technique permet de faire de l'uranium très enrichi, donc du matériau pour la bombe. Et la technique du retraitement qui est utilisée en France et en Angleterre, qui produit du plutonium, est aussi une technique qui a été mise au point pour faire du plutonium pour la bombe. Et donc, avec ce plutonium, on peut soit dire qu'on fait du nucléaire civil, mais on peut aussi faire du nucléaire militaire. Et donc, tout pays qui a les techniques, qui se dit, ben la France, c'est quand même le modèle, hein, enrichissement, retraitement, réacteur à eau, formidable, moi je veux faire pareil, ben, je fais pareil, donc je fais de l'uranium enrichi, je fais du plutonium, et j'ai des réacteurs, et tout ça marche très bien. Et quand je veux, je peux faire la bombe. Donc la possession des techniques, vouloir faire du nucléaire civil, qui peut apparaître comme tout à fait légitime en disant, surtout basé sur la notion d'indépendance nationale, donc on ne demande l'avis de personne, ces techniques-là peuvent être utilisées pour produire des matériaux pour des armes nucléaires. Et donc là aussi, il faudrait se rendre compte que si le nucléaire devait être généralisé, qui est même l'ambition des promoteurs du nucléaire, hein, ils veulent absolument en mettre partout, ça a été vu depuis des années.
Oui, c'est considéré comme un marché d'avenir.
C'est un marché d'avenir, et donc il y aurait du nucléaire partout, puisque c'est la solution idéale. Eh bien, le nucléaire partout veut dire qu'à peu près partout, les pays pourraient faire la bombe. Et d'ailleurs, beaucoup de pays qui veulent du nucléaire, on peut dire que c'est pour faire de l'électricité, mais il y a sous-jacent la volonté d'être dans la cour des grands, c'est-à-dire les grands étant considérés comme ceux qui ont l'arme nucléaire. Donc c'est une définition de la grandeur qui est pitoyable, mais qui malheureusement a cours actuellement.
Bon, pour faire bon poids et clore ce chapitre de la description de la grandeur nucléaire, la question des transports qui a été très bien soulignée au mois de novembre dernier par l'affaire du train de déchets qui devait traverser la France pour rejoindre l'Allemagne. Est-ce que vous avez un mot de commentaire sur les transports, Benjamin Dessus?
C'est là que se concentrent toutes les difficultés de sûreté et les difficultés de prolifération. Et
alors, surtout, il faut peut-être déjà préciser qu'il y a énormément de transports.
Il y a beaucoup de transports.
De matières radioactives.
De matières radioactives, des déchets, etc. Il y a des transports de plutonium, il y a des transports de
l'uranium. Par la route, par le rail.
Et ça ne va pas s'améliorer si on suit ce que nous propose l'industrie nucléaire, consistant à évoluer vers une civilisation de la génération 4 de réacteurs qui vont utiliser essentiellement du plutonium pour marcher. Et à ce moment-là, on va faire une civilisation du plutonium avec des échanges de plutonium partout. Or, le plutonium est l'élément le plus proliférant, puisque à partir de là, on a accès directement à la bombe. Et l'expérience prouve qu'il est très difficile d'avoir une comptabilité précise du plutonium pour éviter que quelques kilos disparaissent au milieu d'un certain nombre de tonnes qui se promènent, et avec quelques kilos de plutonium, vous faites une très belle bombe. Donc par conséquent, cette question de transport concentre la plupart des inconvénients majeurs en termes de contamination possible des populations, et surtout en termes de prolifération. Donc c'est un vrai problème.
Mais aussi, c'est le corps le plus dangereux qu'on ait créé, puisque
il n'existe pas à l'état
ou qui existe. Alors maintenant, il existe, mais il n'existait pas à l'état naturel, dans la nature, sauf des traces infimes. Et donc, on a produit, à travers ces réacteurs, un corps qui est absolument un combustible au plutonium, comme le combustible MOX, c'est 1 million de fois plus radioactif qu'un combustible à l'uranium. Donc déjà, on pourrait déjà se dire, bon, écoutez, on arrête la production de plutonium parce que prolifération, matériaux et matières très dangereuses, etc.
Et, c'est-à-dire que sans même parler de sortie du nucléaire, il serait tout à fait possible d'arrêter cette filière-là.
Absolument. Ça ne diminuerait pas d'un kilowattheure la production d'électricité, puisque tous les réacteurs fonctionnent très bien avec l'uranium, y compris l'EPR. Donc on n'a pas du tout besoin du MOX. Et donc on pourrait dire, bah écoutez, voilà, ça suffit, le plutonium, tout le monde reconnaît que. D'ailleurs, il n'y a que 10% des réacteurs au monde, des réacteurs à eau, justement, on a parlé, 10%, qui utilisent des combustibles au plutonium. Tous les autres n'utilisent que l'uranium. Et les 104 réacteurs américains n'utilisent que l'uranium.
Si bien qu'en fait, le plutonium s'accumule, qu'il y en a aujourd'hui près de 80 tonnes à La Hague, qu'ils ne trouvent pas destinataire ou destination. Alors, en finir avec le nucléaire, on vous a bien entendu et on voit vraiment assez bien pourquoi. La deuxième partie du livre, c'est comment. Et vous introduisez la notion extrêmement intéressante, dont on a déjà parlé, mais je trouve que vous la mettez vraiment particulièrement bien en lumière, la notion de transition énergétique. Alors, c'est effectivement une question qu'on a souvent abordée à terre. On a reçu au mois d'octobre dernier les ingénieurs qui ont écrit le scénario Négawatt version 2011. Mais j'aimerais bien que vous nous expliquiez, que vous nous donniez votre vision de ce qu'est la transition énergétique aujourd'hui. Bernard Laponche ?
Négawatt a fait un exercice très intéressant et très remarquable sur la France. Et il est particulièrement délicat à cause justement de la question nucléaire. Mais il faut voir que cette transition énergétique est le futur énergétique du monde. Et que...
On peut peut-être même déjà dire un début de présent. C'est-à-dire
que c'est
un futur très proche.
C'est clair, c'est que tous les pays intelligents ont compris que le futur énergétique
c'est
de la planète,
engagé.
C'était ça. Alors, il y a ceux qui se disent c'est ça, mais eux, je ne sais pas trop comment il faut faire, c'est compliqué, je viens quand même encore. Et puis il y a ceux qui disent c'est vraiment ça, parce que on ne peut pas continuer à gaspiller l'énergie, d'autant plus qu'elle est limitée, etc. Mais surtout parce qu'il y a des pays que, curieusement, qui étaient pauvres et qui commencent à avoir des croissances économiques et qui donc ont des besoins croissants d'énergie. Et comme le gâteau est limité, en particulier le gâteau du pétrole, qui est quand même celui qui est la première énergie consommée, eh bien, si on veut éviter des guerres, ça veut dire qu'il faut la transition énergétique qui consiste à consommer moins. Ce qu'on peut faire, la France peut diviser par deux sa consommation d'énergie sans toucher au confort. Alors il faut un certain temps, mais pour se mettre sur cette voie-là, c'est-à-dire vraiment développer des choses nouvelles, il faut effectivement arrêter cette monomanie nucléaire qui bloque tout, quoi.
Ce qui est intéressant, c'est que quand vous abordez la transition énergétique, vous remettez le nucléaire à sa place, c'est-à-dire une place tout à fait dérisoire, en fait.
Quand on regarde la question au niveau mondial, on voit bien, d'ailleurs, dans les scénarios les plus pro-nucléaires qui existent à l'AIEE, à l'AIEA, enfin dans les grands organismes internationaux, défenseurs du nucléaire, on s'aperçoit qu'en 2035 ou 2040, même des programmes très ambitieux de nucléaire ne résolvent que quelques pourcents de la question, par exemple, des émissions de CO2 de la planète, alors qu'il faut diviser par 4 ces émissions. Donc c'est complètement à côté de la plaque. Mais plus largement, l'histoire de la transition se joue entre deux conceptions. Une conception de croissance verte où les gens disent l'essentiel c'est la croissance, y compris dans les pays très riches comme les nôtres, et le vert c'est la technologie qui va nous la donner, des ruptures scientifiques, le stockage du CO2 dans le sous-sol, l'hydrogène, la fusion, enfin tout ce que vous voudrez, et on s'en sortira comme ça. Et les gens plus raisonnables qui se disent on ne peut pas s'en sortir comme ça sauf avec une série de paris technologiques sur lesquels on n'est pas prêt à investir beaucoup, forcément beaucoup. Et au contraire, l'autre façon de s'en sortir, c'est de consommer moins d'énergie, en particulier dans les pays riches, pour laisser un peu d'espace aux pays qui sont en train de se développer, et aussi passer des énergies les plus carbonées à des énergies moins carbonées, que sont les énergies renouvelables.
Oui,
donc voilà
alors,
ces deux concepts.
Alors, quand vous dites ça, Benjamin Dessus, d'une certaine manière, vous opposez quelque chose qui est onirique, une sorte de vision prométhéenne extraordinaire d'un avenir radieux qui serait concocté par les ingénieurs les plus intelligents de la planète, à une solution un peu triste, un peu ménagère, un peu domestique, économie, consommer moins. Et il me semble que ce qui est vraiment intéressant dans la façon que vous avez de proposer les choses, c'est que vous sortez de cette opposition, qui est une opposition parfaitement fausse, pour montrer qu'en vérité, ce qu'il faut, c'est simplement changer de regard, c'est-à-dire cesser de regarder vers l'offre pour regarder vers la demande. Et là, tout change sans qu'on soit amené à faire des sacrifices drastiques, à vivre dans une sobriété janséniste qui n'est pas de très bonne aloi. Bernard Laponche ?
C'est beaucoup plus bonnard de développer des trucs dans des territoires ou dans sa ville ou dans son village, parce que ce soit énergie renouvelable ou économie d'énergie, que d'attendre qu'on ait importé 10 millions de tonnes de pétrole, on n'y peut rien, ça vient de Sibérie, du Moyen-Orient, etc., ou de l'uranium qui vient du Niger, du Canada, etc. Donc je veux dire, d'un côté, on est complètement en dehors de la question, c'est-à-dire on paye sa facture et puis basta, et de l'autre côté, on peut construire des choses. Donc déjà, par rapport au... Alors il y a quelques savants fous qui se régalent à avoir des technologies à la noix dont on s'aperçoit au bout de 20 ou 30 ans qu'elles sont hyper dangereuses et qu'il faut les abandonner. Alors eux, ça les amuse beaucoup, mais grosso modo, le reste des gens...
Ils arrivent à faire rêver quand même.
C'est le cas d'ITER, ça fait rêver.
Oui, oui.
Ça fait rêver et tout le monde sait d'avance que c'est complètement à côté de la plaque.
Absolument. Donc vous, ce que vous proposez, c'est un autre rêve qui est bien réel.
Qui est réel et puis auquel tout le monde participe.
C'est un rêve citoyen en plus.
Parce que je veux dire, ITER, il y a peut-être quelques dizaines ou peut-être même centaines de scientifiques qui vont s'amuser, à mon avis non, mais c'est très limité. Alors que là, c'est beaucoup plus collectif, c'est beaucoup plus local, etc.
Alors, tout le monde participe comment ?
Eh bien, par exemple, dans mon village, à côté de chez moi, j'ai une petit village... Moi, c'est un petit village et à côté, c'est un petit bourg, Sous-Sérac. Mais un Sous-Sérac qui, jusqu'à maintenant, alors il y a 50 ans, les gens ont amené leurs bûches à l'école pour chauffer le poêle. Bon, puis tout à coup, tout le monde est passé au fioul lourd. Et puis maintenant, dans ce petit village de Sous-Sérac, il y a des éoliennes, du photovoltaïque et une chaudière à bois qui chauffe la maison de retraite plus quelques bâtiments publics. Et c'est un bourg mais minuscule. Et les gens, ils ont fait ça, et ils sont contents, et ils trouvent
c'est-à-dire
que c'est
ce sont
mal.
Les habitants de la commune.
C'est les habitants. Il y a aussi Gamme Vert, qui est une coopérative qui a participé à ça. Il doit y avoir l'agence de je ne sais pas quoi du Lot qui a donné un coup de main. C'est complètement différent que d'acheter du fioul lourd. Et d'abord, sur le plan économique, ça utilise le vent qui est sur place, le soleil qui est sur place, et le bois qui est dans des forêts.
Plus de la main-d'œuvre locale.
Et plus de la main-d'œuvre locale. Et ils sont vachement très fiers de ça, quoi. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'on passe de consommateurs totalement impuissants sur le prix du pétrole, y compris le président de la République, il ne peut rien faire sur le prix du pétrole. Donc, bon, à des gens qui se disent, écoutez, le bois, comment est-ce qu'on peut l'avoir un peu moins cher en ayant une main-d'œuvre locale, etc. Donc, moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus amusant que les rêves de savants fous. Et puis, en plus, alors, on dit, c'est bien joli, vous avez raison, c'est très compliqué, etc. Pour reprendre ce que disait Benjamin, les travaux de l'AIE nous disent que pour réduire les émissions de gaz carbonique, suivant les objectifs du climat divisé par 4, etc., la moitié de l'effort, c'est l'efficacité énergétique au niveau de la demande, de la consommation. Et puis 10 ou 15%, c'est des énergies renouvelables, et le nucléaire, même si on en fait beaucoup, c'est 6%. Donc on ne va pas s'emmerder pour 6%, quoi, je veux dire. Et en Europe, on a déjà fait depuis 30 ans des efforts qui font que, sans qu'il y ait de révolution, ni de manif, ni de scandale, on a économisé beaucoup d'énergie par rapport aux tendances qu'il y avait au début des années 70. Donc à la fois c'est réalisable, on l'a prouvé, il y a des potentiels énormes, et surtout c'est très intéressant à faire. Voilà.
C'est ça. Les économies d'énergie, c'est avant tout une réappropriation de sa propre production, consommation d'énergie. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est intéressant.
Et économie d'énergie plus renouvelable, partout, vous pouvez le faire. À Bamako, à Los Angeles, à Sousserac ou à Yokohama. Donc, c'est vraiment une stratégie qui peut être appliquée partout sans faire la guerre avec son voisin.
Alors, on va peut-être terminer tout de même, puisqu'il ne nous reste plus que 3 minutes, sur les énergies renouvelables que vous venez d'évoquer, Bernard Laponche, en ayant bien souligné qu'en effet, le principe premier, c'est les économies d'énergie, mais les économies joyeuses, c'est-à-dire une maîtrise de l'énergie plus que des économies. Et les énergies renouvelables, là aussi, on s'aperçoit que malgré les railleries qui ont accablé ce secteur depuis des dizaines d'années, ben c'est un secteur qui se développe, qui va bien, qui est inventif, qui crée de plus en plus et qui est de plus en plus plausible à une échelle importante. Benjamin Dessus.
Oui, dans le domaine de l'électricité en particulier, l'exemple allemand est tout à fait intéressant. Depuis le moment où les Allemands se sont dit qu'ils allaient sortir du nucléaire, c'était la fin des années 90, ils ont lancé à la fois un programme important d'économie d'électricité et un programme d'énergie renouvelable. Mais ils l'ont pris encore là de façon positive, alors que nous voyons en France l'introduction des énergies renouvelables pour faire de l'électricité comme une contrainte qui nous est imposée par une directive qui vient de Bruxelles, reprise en main par des grandes entreprises du style EDF, etc., qui essaient de faire plus ou moins bien. En Allemagne, c'est considéré comme une activité industrielle très porteuse, porteuse d'exportation, porteuse d'emploi, et c'est ça l'essentiel pour les Allemands. Ça a été pris en main par une série de PME de petite ou de grande taille, qui commencent à inonder le marché mondial de leurs produits. Donc on est dans une optique tout à fait différente, et actuellement les Allemands sont déjà à peu près à 20% d'électricité renouvelable, et ils ont un objectif, je crois, de 30% en 2020, 35% en 2005,
mais
en
alors,
2020, donc des choses tout à fait considérables.
C'est les citoyens qui sont les propriétaires de la plupart de ces nouvelles énergies renouvelables. C'est ça la grande différence aussi.
Alors, on va terminer juste par une question à laquelle vous allez répondre par oui ou par non. L'Allemagne, il y avait relativement peu nucléaire. La France, son électricité est énormément nucléarisée. Est-ce que c'est néanmoins possible pour la France de sortir du nucléaire et en combien de temps?
Alors, on a fait l'exercice pour 2030, sortir en 20 ans du nucléaire, à la condition de faire un programme volontariste, très volontariste d'économie d'électricité. C'est vraiment la première chose. Et de suivre les engagements du Grenelle du point de vue des renouvelables, on peut sortir en 20 ans du nucléaire à un coût du même ordre que d'y rester. Nous avons trouvé un peu moins cher, mais disons du même ordre que l'idée d'y rester.
En finir avec le nucléaire, pourquoi et comment, c'est un ouvrage signé Benjamin Dessus, Bernard Laponche, aux éditions du Seuil. Merci, Terre à Terre, c'est terminé pour ce matin. Vous pourrez télécharger cette émission pendant une semaine sur notre site franceculture.com, y retrouver une bibliographie et notre revue de web hebdomadaire. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Chenepin, Anne Gouzon, prise de son et mixage, Fabien Capel, Alain Joubert, réalisation, Vincent Abouchard. Bonne semaine à tous.